vecinos.
Vous êtes toujours sur Radio Entre Deux Mers. Il est l'heure maintenant de votre conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Thibault. Bonjour, bonjour. Toi, tu es toujours en forme. C'est chouette.
Ouais,
c'est chouette. Ah, mes chéris, c'est chouette, vous savez, d'avoir un animateur technicien. Parce qu'il fait les deux. Bah oui.
Oui, je suis
toujours en forme. Il est multifonction, voilà. Il est toujours en forme, c'est vachement agréable. Voilà. Et vous, mais ben, j'espère que vous allez bien, nos chers auditeurs qu'on aime tellement. Et puis, on vous remercie hein, de nous recevoir chez vous et puis de nous écouter, de suivre notre radio, voilà, Radio Entre Deux Mers. Merci en tout cas. Bon, et on va commencer, on va parler de cinéma. Conversation autour du cinéma, ma foi.
Bon, ben, je pensais qu'on avait parlé de musique au début, mais
vachement ben, surprise. Sinon, je parle de cuisine, si tu veux, la tarte au citron. Non, non, hein, on va rester
au cinéma. Jamais aussi, moi.
On va rester au cinéma. Et alors là, tu sais, ben, on est content parce que il y a trois belles, très belles animations. Pour les enfants, alors c'est que des films, c'est marrant, les trois animations sont pour les enfants, nous dit-on, à partir de 6 ans. Nous trois, voilà. Alors le premier, à partir de 6 ans, ça s'appelle « Sacré momie ». Ah, c'est tout un programme. Ça dure 1h29. Animation, famille, comédie, aventure. Et alors, le réalisateur a un nom très très long. C'est un réalisateur, chef décorateur d'ailleurs espagnol, qui s'appelle Juan Jesús García Galocha. S'il vous plaît. Donc, c'est pas facile à retenir. On va quand même essayer de le retenir.
Dommage mais bon, qu'on puisse pas mettre les noms en Scrabble, quoi.
N'est-ce pas? Mais il a fait un film extraordinaire qui est très, 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 très chouette. Alors, il s'agit de quoi? Avez-vous déjà, non, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies? Non, oui, ça c'est une question. Point d'interrogation. Sous les pyramides d'Égypte se trouve un royaume fabuleux où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Quel programme! Mais lorsqu'un archéologue sans scrupules pille un de leurs trésors, Tout et la princesse Néfer, fiancée malgré eux, se voit contraint de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagné par le frère de Tout et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue. Alors moi, je savais qu'il y avait des chats, des chiens, hein, des animaux domestiques. Hein, on a tous eu un chat, un chien. Eh bien, il y en a qui ont un crocodile. Voilà. Un crocodile domestique.
C'est sympa aussi. Hein.
N'est-ce pas? Oui. Ben oui, si on lui arrache les dents avant, quand même. Voilà. Donc, c'est un... oui. Et alors, Sacré Momie, on nous a dit, est né d'une bague. Voilà. Né d'une bague, un bijou. L'alliance, une invention égyptienne, a toujours servi de symbole d'engagement, d'union et d'éternité. La fameuse alliance... Tu savais que c'était une invention égyptienne? Ah, on apprend des choses, moi je ne savais pas.
Justement, je ne savais pas.
Et voilà. Et alors du coup, là, on nous raconte l'histoire de Tout et de Néfer, qui sont deux personnages qui ont une peur presque panique de s'engager. Ah, donc, cette fameuse alliance. L'alliance, ça engage deux personnes. On est bien d'accord. Parce que ça, alliance égale mariage, normalement. Donc, on peut mettre une alliance sans être marié non plus. Bon, faut voir. Ça se discute, hein. Ça se discute. Voilà, donc Juan Jesús García Galocha, le réalisateur, est un débutant en matière de mise en scène. Voilà. Mais il avait travaillé comme directeur artistique sur des films. Par exemple, il a travaillé sur Tad l'explorateur, voilà, ou alors À la recherche de la cité perdue. Très, très chouette. Hein. Tad le secret du roi Midas, il avait travaillé là-dessus. Mais là, il débute dans la mise en scène. Mais c'est très, très chouette. Voilà, c'est un film espagnol, bien sûr. Et voilà, donc on est sur les bandes annonces, hein, on est d'accord là-dessus, Thibaut?
Oui. Alors en termes de bandes annonces aujourd'hui, du coup j'ai les momies les momies sacrées. J'ai parlé comme les Anglais maintenant.
Voilà, à
l'envers. Le noir chien, le.
Alors, donc, allons-y.
Du coup, l'annonce bande de Sacré Momie.
Merci.
L'Égypte, terre de mystère. De l'autre côté de cette porte se cache le tombeau de la princesse Néfer. Une ville, un monde peuplé de momies sous la terre. J'ai fait une découverte. Aujourd'hui, ma chère fille, le phénix va choisir ton futur époux.
Je n'ai pas envie de me marier. Oh non!
C'est toi que le phénix a choisi! Tu dois protéger cette bague jusqu'au jour du mariage.
Une alliance royale! Cette bague sera le joyau de ma nouvelle exposition.
Où est la bague?
Le seul moyen de la récupérer, c'est de se rendre dans le monde des vivants.
C'est bon, allons-y. Il faut trouver la bague.
On est coincé ici.
Prends-en de la graine.
C'était donc la bande-annonce de Sacré Momie. Cette fois, je le dis à l'endroit. Et
cette
je te propose
musique.
Qu'on passe à la prochaine animation.
Oh oui. Alors, la prochaine animation, oh là 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 là, c'est l'adorable Titina. Parce que Titina, c'est un chien Titina. Oh là là, il est beau, adorable. C'est le genre de chien qu'on aimerait avoir chez soi. Tellement il est adorable, Titina. C'est de l'animation, c'est de l'aventure. C'est voilà, Titina, oh là là, c'est pareil. Les enfants qui aiment les animaux vont se régaler absolument. Bon, pour la prononciation du réalisateur, enfin de la réalisatrice, ça va être un peu compliqué. Elle est norvégienne, cette réalisatrice, et elle s'appelle Katja Naes. Désolée, mais c'est vraiment son nom. Et c'est son premier long métrage, justement, à cette réalisatrice. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire? Umberto, monsieur Umberto Nobile, vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina. Jusqu'au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L'histoire vraie d'une expédition historique vue à travers les yeux de Titina. C'est absolument adorable. Moi, je le veux, je veux Titina. Je veux absolument Titina. Quand on aime les animaux, c'est le genre de chien qu'on aimerait avoir. Il est adorable, absolument. C'est un film produit par la Norvège et la Belgique. C'est très, très, très mignon, adorable. Alors, il y a écrit sur l'affiche, on peut lire « Embarquer pour une extraordinaire aventure polaire ». Et il y a Titina devant sur l'affiche. Oh là là, c'est adorable, adorable. Alors moi, je le veux. Oh, j'espère que je vais pouvoir trouver le DVD de Titina. Moi, je veux Titina, absolument. Voilà. Mais À partir de 6 ans, hein, pareil, hein, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Hein. Voilà, Titina. Oh, c'est beau. Et puis, oh, bah, j'en ai un troisième, non moins joli. Ouais, Louis.
Toujours sur le thème des animaux, en tout cas.
Tout à fait, absolument. Dans le premier, on avait un crocodile. Dans le deuxième, on a un chien. Et dans le troisième, on a quoi ? Parce que ça s'appelle Louise et la légende du serpent à plumes. Ah, on a un serpent à plumes. Ça dure 44 minutes, c'est de l'animation, donc c'est de l'aventure, c'est pour la famille. Et c'est réalisé par une réalisatrice, japonaise, scénariste. Elle est superviseure de l'animation des personnages. Elle s'appelle Efang Wei. W-E-I, je sais pas, moi je prononce ça Wei, non? Efang Wei. Elle a 10 ans de carrière, elle a déjà tourné 4 films et elle a eu quand même, attention, sur 4 films, 13 nominations. C'est quand même pas mal. C'est quelqu'un qui fait probablement du bon boulot. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce film. Louise et la légende du serpent à plumes. Pareil, l'histoire est très agréable. C'est joli comme tout. Alors, le film est précédé du sublime court Lion Bleu. Il y a un court-métrage que je ne connais pas. On dit qu'il est sublime et ça s'appelle Lion Bleu juste avant le film. Sinon, c'est l'histoire de Louise, petite Française de 9 ans qui vient d'emménager avec sa famille à Mexico. Mais elle a du mal à s'y faire. Pardon. Et elle trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Kesa. Lorsque celui-ci s'échappe, il entraîne Louise vers d'incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celles de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Kesa est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl. Attention, tu as retenu le nom du dieu, Thibaut ?
Oui, le Quetzalcoatl.
Voilà, Quetzalcoatl. Bravo, bravo. T'as gagné, je sais pas quoi, peut-être une tarte au citron si j'en fais un de ces jours. Ouais, voilà.
Une augmentation.
Ah, bien.
Non.
Aussi, ouais. Sûr. Et c'est un... qui a dit ça ? Qui a osé dire ça ? Et c'est un film qui est produit par la France. Voilà. Là, c'est joli, Louise et la légende du serpent à plumes. C'est joli comme tout. 3 belles animations, mes chéris, franchement. Allez, bon, vous allez bien en choisir une. Peut-être 2 après tout. Oh, allez, vous y allez en famille. Pas même les 3. Ben, je voulais pas pousser à la dépense, moi, c'est pour ça. Bon, voilà.
Aussi, si allons-y. Vous...
Allez, allons-y. En famille, en plus. Toute la famille va aller voir. Non, mais c'est vraiment 3 films extrêmement différents. Et très, très beau. Vraiment très, très beau. Alors, ensuite. Ah, alors là, on va passer. Pareil, bon, on va passer à. Au départ, j'ai cru que c'était une animation. Mais ouais, pas
vu le titre, ça peut. On peut se demander.
Mais pas du tout, non. C'est un long métrage de fiction avec des acteurs, s'il vous plaît. Un beau casting, vous allez voir. Ça s'appelle Jody et Théou, frère du désert. Frère au pluriel. Jody et Théou, frère du désert. Ça dure 1h50, c'est de la comédie, c'est de l'aventure, c'est pour la famille. Et oui, et c'est réalisé par Éric Barbier, on le connaît, on a déjà parlé de lui. Éric Barbier, réalisateur, scénariste, adaptateur français. Il a 63 ans, il a 37 ans de carrière, il a commencé tout jeune. Il a 12 tournages à son actif. Il a eu pas mal de nominations, je crois 9 ou 10 nominations déjà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait du bon travail, c'est du bon cinéma. Et là, alors, il s'agit de quoi ? C'est qui Jody d'abord ? Jody, c'est un jeune nomade, il a 12 ans, et il découvre dans le désert un bébé, dromadaire, orphelin. Il le recueille, le nourrit et le baptise Théou, et il devient son meilleur ami. Pardon. Jody apprend par une vétérinaire, Julia, que Théou est un coureur exceptionnel et qu'il peut rapporter beaucoup d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek, le braconnier de la région. Pour éviter que Théou ne soit vendu, Zodi décide alors de s'enfuir et de traverser le Sahara. C'est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek. Il survivra à une tempête de sable et il traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire Théo à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l'aide de Julia, Julia c'est donc la vétérinaire, Zodi va se démener pour réaliser son rêve et faire de Théo un champion et sauver sa tribu. Sacrée histoire quand même, hein? Belle histoire.
Une belle histoire,
ah, ouais. Ah ouais, c'est une très belle histoire. Et alors, on a un casting. Oh bah oui, on a Alexandra Lamy. C'est Julia, la vétérinaire. Zodi, c'est Yassir Drieff. Il est absolument adorable, ce jeune acteur. Plein de talent adorable. On a Youssef Hadji. Alors, on le connaît, Youssef Hadji. Si on a l'habitude du cinéma, d'y aller, d'aller voir des films, il joue le rôle de Tarek, le vilain, et on le connaît. Absolument, physiquement. On a aussi, Saïd Bey, qu'on connaît, pareil. Hein, on peut avoir ne pas avoir retenu son nom, mais on le reconnaît, on le voit, on le reconnaît. On a Pierre Ancis aussi, qu'on connaît physiquement. Nadia Benzakour, Aminé Anadji aussi, dans les rôles principaux. Ah, ouais, c'est... Moi, j'ai trouvé que ça valait la peine d'en parler. Parce que, bah, voilà, c'est du cinéma agréable. Hein. Et voilà, je trouve que. Et c'est un producteur, Farid Lawassa, qui a proposé au réalisateur Éric Barbier cette histoire d'amitié entre un petit garçon et un dromadaire. Et alors, le réalisateur nous dit, cette proposition est tombée formidablement bien parce que je rêvais depuis longtemps de faire un film que les plus jeunes pourraient voir avec plaisir. Eh ouais. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que oui, c'est ce que j'aime aussi moi justement au cinéma, c'est que pour un réalisateur justement faire un film destiné aux enfants, c'est un peu comme revenir à l'origine de son amour du cinéma. Voilà ce qu'il nous dit. C'est être à nouveau impressionné par la solennité du moment où les lumières s'éteignent dans la salle. C'est redécouvrir sur grand écran la poésie et l'onirisme de paysages et de mondes inconnus. C'est retrouver la force des histoires qui nous plongent dans un univers où le rêve et la magie ont encore une place centrale. C'est joli ça, c'est beau ce qu'il nous dit quand même.
C'est très joli, oui.
Je pense que oui, je suis tout à fait partante là-dedans, quoi. Absolument. Alors, ça c'est le tournage a eu lieu dans la région de Ouarzazate. Voilà. Et alors là, à Ouarzazate, l'équipe est tombée sur plusieurs familles de nomades qui vivaient là dans le désert rocheux, hein, qu'on appelle le Reg. Et il leur a demandé de participer au film. Voilà. Alors du coup, le réalisateur nous dit, ces familles amènent au film le réalisme de la vie des nomades berbères. Alors ça, le tournage a duré 3 semaines là dans la tribu. Les familles dormaient et vivaient sur le décor. Voilà, c'était quand même intéressant ça quand même. Hein, eh ouais. C'est une production française ce film. Et franchement, aller voir en famille, quoi, c'est vraiment un grand plaisir. Mais c'est pareil, moi je pense que on peut déjà 1h50, oh, à partir de 7-8 ans, je dirais. 6 ans, c'est peut-être un peu jeune, 1h50. Ça dépend des enfants, ça fait un peu long. 8-10 ans, c'est parfait, moi, je pense. Tout à fait, ça. Enfin, mes chéris, vous connaissez vos enfants, vous savez s'ils peuvent tenir 1h50 dans une salle. Hein. C'est vous qui savez ça. En tout cas, c'est un très, très joli film et c'est une belle histoire. Zodi et Théo, frères du désert.
Donc le prochain film, une comédie, une seconde comédie du coup, parce que le premier est déjà sorti.
Voilà, alors Alibi.com 2, c'est celui qui sort là justement aujourd'hui. Et c'est un film, alors on va voir, parce que bon, je voulais dire Alibi.com le premier est sorti en 2017. Donc ils ont attendu un certain temps. C'est toujours le même réalisateur, c'est Philippe Lachaud. Pour les deux. Hein. Alors lui, c'est un réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 42 ans. Il a 12 ans de carrière. Il a déjà quand même 18 tournages à son actif, pas comme réalisateur, mais comme acteur, parce que j'ai dit qu'il était acteur également. Hein. Donc il a eu Babysitting 2, ça fait 3, 4, 5, ça doit être son sixième long métrage comme réalisateur. C'est ça à peu près, mais il en a 18 parce qu'il a beaucoup tourné comme acteur. Il a eu 2 prix et quelques nominations, je crois que c'est 5 nominations. Alibi.com d'ailleurs a eu une nomination. Et puis Babysitting avait été primé aussi, prix, nomination. Bref, ça s'était très bien passé pour lui. Donc il continue jusqu'à, pour notre grand, grand plaisir. Et là, on a Alibi.com 2 maintenant, qui dure 1h28. C'est une comédie. Donc, alors, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on se souvient un peu du premier, quand même, un petit peu, je suppose?
Oui, quand même.
Oui, quand même. Hein, il s'appelle Greg, le héros. On peut oui. l'appeler comme ça. Il avait, il avait créé une entreprise qui s'appelait Alibi, enfin, qui s'appelle Alibi.com, voilà, et qui créait justement tout type d'alibi. C'est-à-dire que grâce à cette alibi.com, on pouvait mentir à tout le monde en disant qu'on était à tel endroit alors qu'on était ailleurs, puisqu'ils nous inventaient des alibis. Oh, les vilains méchants. Donc, et pendant cette période qu'il a rencontré Flo, une jolie blonde qui déteste que les hommes mentent. Elle aime pas les menteurs et ça va lui compliquer la vie. Eh ben oui, parce qu'il peut pas lui dire ce qu'il fait d'emblée comme ça. Et donc il va également faire la connaissance des parents de Flo. Et hop, on repart sur Alibi.com 2 et on nous dit que après avoir fermé son agence Alibi.com, parce que ça a mal tourné pour lui hein, dans le premier. Et après avoir promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, oh là là, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille, plus pour longtemps. Lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et il doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère, ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime alibi et de se trouver des faux parents plus présentables. Aïe. Et là, on peut mettre des points de suspension parce que ça va barder. Ça va barder. Alors, bon, c'est toujours Philippe Lachaud, le réalisateur, qui joue le rôle de Greg, Grégory. Élodie Fontan, c'est toujours Flo, cette superbe actrice, pleine de talent. On a toujours Tarek Boudali, on retrouve les mêmes. Hein. On a Julien Arruti, voilà, ils sont tout le temps avec Philippe Lachaud, quasiment depuis le début. On a Didier Bourdon, on le retrouve. On a Nathalie Baye qu'on retrouve. On est très content de retrouver Nathalie Baye, évidemment. On a Ariel Dombal. Alors elle joue le rôle de la mère de Greg. Pas mal du tout. Et Gérard Jugnot. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup Gérard Jugnot. Ça me fait plaisir de le revoir là-dedans. Et c'est le père de Greg. Voilà. Dans les rôles principaux, on a Georges Corafas aussi, on a Catherine Benguigui, des gens qu'on connaît, hein, Philippe Duquesne, on a Gad Elmaleh aussi quand même, on a Mehdi Sadoun, on a Rim Kérissi, on a Alexandre Alamy, qu'est-ce qu'on a qu'on connaît? On a Redouane Bouguiraba, Romain Francisco, on les connaît tous, Théodore Leblanc, Philippe Lelouch, Pascal Obispo, ben oui, il joue son propre rôle, hein. Obispo joue lui-même et Patrick Fiori qui joue son propre rôle également. Voilà. Donc c'est un casting d'enfer, mes amis. Normalement, alors il a travaillé aussi avec Julien Arruti qui est scénariste hein, également Philippe Lachaud. Et puis il a travaillé également avec Pierre Lachaud comme scénariste et Pierre Dudan deux comme scénariste. Voilà. Ils s'y sont tous mis et ils ont réalisé une comédie qui est très très drôle quand même. Voilà, on, normalement, on doit beaucoup s'amuser. Écoutez, mes chéris, si vous êtes un peu tristes en ce moment, parce que l'hiver, des fois, quand on a froid, c'est pas toujours rigolo, on perd un peu le moral comme ça, machin. Bon, eh ben, on peut peut-être aller voir une comédie comme ça. Hein. Voilà. Regardez comme ça, sans réfléchir, et juste se détendre. Et je sais que notre ami Thibaut va nous envoyer une bande-annonce.
Eh ben ouais, ouais, ouais. J'ai envoyé la bande-annonce de alibi.com 2.
Ça vous dirait d'être mes témoins ?
Non !
Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûre de toi pour ce mariage ? Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse.
Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais.
En fait, ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
Ah merde !
Mais ce n'est pas moi le problème, c'est ton escroc de père.
Fiston !
C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère.
Complètement folle !
Mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé. J'arrive pas à croire qu'on soit là.
Non mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée.
Ça va se passer comme sur de la crème.
Oh.
Profite de cette journée, elle va être mémorable.
Je vous souhaite d'être un modèle de bonheur et de fidélité, comme l'est ta mère. Et c'est déjà bien.
C'était donc la bande-annonce de Alibi.com 2, et cette fois, on retourne aux frais.
Oui, 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 on retourne aux frais, oui. Bah, rien qu'avec le titre, d'ailleurs. On va
retourner aux frais avec ce titre-là.
Allez, donne-nous le titre, vas-y, vas-y.
Les têtes givrées.
Ah, voilà, les têtes givrées. Bon sang, effectivement, un sacré titre, mais d'époque, hein, c'est d'époque, parce que le matin, en ce moment, il y a un peu de givre quand même, hein, dans pas mal de régions, sur l'herbe et tout. Ah oui, pendant la nuit.
Les pare-brises qui dégustent, surtout.
Et les pare-brises aussi, les pare-brises dégustent, oui. Donc là, les têtes givrées, ça dure 1h42, c'est une comédie dramatique de Stéphane Cazès. Alors, je ne sais pas si on prononce Caz ou Cazès. Ça s'écrit C-A-Z-E-S. Moi, je pense Cazès quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut. Stéphane Cazès, qui est un réalisateur, scénariste, producteur français. Il a 16 ans de carrière. Il a déjà 4 tournages à son actif. Et il a quand même, sur 4 tournages, c'est pas mal, 2 prix et 7 nominations. Voilà. Donc, on retourne sur son film. Alors, il s'agit de quoi ? Les têtes givrées. Dans un collège au pied du Mont-Blanc, les élèves de SECPA peinent à entrevoir un avenir positif. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d'un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu'avec le réchauffement climatique, si rien n'est fait, ce glacier, comme beaucoup d'autres, pourrait disparaître. Contre l'avis de tous, mais entraînés par leurs professeurs, ils vont se lancer, corps et âme, dans un projet fou, protéger le glacier et l'empêcher de fondre. Désormais, plus rien ne pourra les arrêter, parce qu'il n'y a pas de planète B. Et oui, quand on a des plans, n'est-ce pas, on a le plan A, le plan B, parfois un plan C, quand les deux autres plans n'ont pas fonctionné. Mais il n'y a pas de planète B, effectivement. Ce n'est pas aussi simple. Et là, c'est pareil, on a un casting vraiment très, très, très agréable. On a Claudia Tagbo qui, dans ce film, dans les rôles principaux, on a Clovis Cornillac qui joue le rôle d'Alain. On a Marwa Medjet-Yara, on a Malone Levana, ce sont des jeunes, des très jeunes comédiennes qui sont vraiment pleines de talent, hein, parce qu'il y a beaucoup de très jeunes dans ce film. On a Maïssa Diawara, on a Louis Durand, on a Shirel Nataf. On a Bettina Flander. Ça vaut le coup de les découvrir. On les connaît pas beaucoup encore, mais ça vaut vraiment la peine. On a Matteo Salamone. On a Anthony Vignard, Raphaël Lemel. Voilà, tous ces jeunes, vraiment, hein, plein de talents. C'est un film très, très, très agréable aussi. Et qui valait la peine absolument qu'on en parle, sans problème. Alors, au départ, Stéphane Cazès, il voulait mélanger plusieurs envies, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Faire un feel good movie. Voilà. Soit un feel good movie, parler du réchauffement climatique, et filmer la nature, faire un film sur le métier d'enseignant et tourner avec des adolescents. Bon sang, il en avait des envies, cet homme-là. Voilà. Alors, il cherchait. Il a cherché avec la co-scénariste Isabelle Fontaine, qui a travaillé avec lui, il a cherché une manière cinématographique de traiter le réchauffement climatique qui est lent et qui semble parfois invisible. Cette voilà, la façon dont il l'a tourné. Et il nous dit qu'à ce moment-là, ils ont découvert des images extraordinaires des glaciers. Ils ont été fascinés absolument, quoi. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. Et il ajoute que une envie folle de filmer cette nature somptueuse et qui est en train de disparaître. Ah, c'est ça, surtout, effectivement. C'est vraiment, par exemple, en Italie, sur le glacier de Presna, nous dit-il, c'est carrément sur une surface qui fait la taille de Paris. Alors, il a trouvé ça fou, et après avoir contacté les glaciologues, il y a des glaciologues effectivement en ce moment qui travaillent là-dessus, Christian Vincent et Luc Moreau, donc il les a contactés et se sont lancés dans l'écriture avec lui. Voilà. C'est quand même, et les personnages, enfin certains personnages, nous dit Stéphane Cazès, ont été inspirés par des élèves qu'il a rencontrés lors de ses ateliers. Voilà. Par exemple, cette jeune fille qui passait ses journées de cours à dormir la tête sur la table et à ne parler à personne et qui basculait dans la violence à chaque fois qu'on lui parlait. Donc, grâce à ce film et grâce à ses élèves, il a pu justement réaliser ce long métrage. Hein. Eh ouais. Et il a découvert, d'ailleurs, c'est marrant parce que en se documentant sur Internet, ça c'est autre chose. Il a découvert, il est tombé des nues, dit-il. Il a découvert que Michael Jordan avait été viré de son club de basket quand il était adolescent et que Steven Spielberg avait échoué 2 fois au concours d'entrée de l'université de cinéma. On apprend de sacrées choses quand même. Eh ben, on l'ignorait, maintenant on le sait, hein, voilà. Les têtes givrées. Allez, on va aller se réchauffer un peu quand même.
Oui, ben ouais.
Alors, c'est un film qui est produit par la France et qui a une nomination, mince, je ne l'ai pas dit, il a une nomination au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2023, long métrage, compétition. Voilà, une jolie récompense. On passe à quoi ? Allez, on va se réchauffer un peu, on va passer à la grande magie. Ça s'appelle la grande magie. C'est le titre du film. Ça dure 1h50, c'est une comédie dramatique de Noémie Elvosky. On la connaît comme actrice, on la connaît comme réalisatrice. C'est une scénariste également. Elle est française, elle a 58 ans, elle a 35 ans de carrière, 82 tournages à son actif. Elle a eu 4 prix. Oui, et 32 nominations, quand même, c'est pas trop mal. Et alors comme réalisatrice, parce qu'elle a tourné dans beaucoup de films, elle était dans beaucoup de films comme actrice également. Elle doit avoir quand même une quinzaine de longs métrages et puis quelques courts métrages également comme réalisatrice. Ouais, quand même. Et puis tout le reste, il en reste une cinquantaine comme ça, ou soixantaine même qu'elle a comme actrice, des tournages comme actrice. Voilà. Moi, j'avoue que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je la trouve très talentueuse. Alors, il s'agit de quoi ? Nous sommes en France pendant les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, Un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Martha, une jeune femme malheureuse, avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et elle en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu'elle est à l'intérieur. Cependant, il ne doit l'ouvrir que s'il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s'installe alors chez Charles, le mari. Sacrée histoire! Là aussi, on peut mettre des points de suspension, quand même. C'est une sacrée histoire, qu'en penses-tu, Thibaut?
Ah oui, c'est là pour une sacrée histoire, on est servi.
C'est au moment où elle doit disparaître, où le magicien doit la faire disparaître, elle disparaît, c'est-à-dire elle s'en va. Alors, c'est pareil, on a un beau casting, on est très content de revoir tous ces acteurs. On a Denis Podalydès, alors c'est lui, Charles. Ouh, le mari jaloux. On a Sergi Lopez, qui joue le magicien Albert. Alors lui, Sergi Lopez, on ne le reconnaît quasiment pas. Franchement, il est... Ah oui, c'est extraordinaire. Hein. Il a... entre ses costumes, entre sa casquette, enfin ses chapeaux, enfin, tout ça, on a du mal à le reconnaître. Il a également une petite barbe. Il a surtout des favoris sur les côtés, des favoris très, très épais, comme ça, blanc et très épais. Il porte des lunettes de soleil. Enfin, on a beaucoup de mal à le reconnaître, Sergi Lopez. Il a un talent fou, cet acteur-là. On est content de l'avoir. Alors, Noémie Elvoski, joue également dans son film. On a Judith Chemla. Bah oui, grand talent, Judith Chemla. On a François Morel. Bah oui, François Morel. On a Damien Bonnard. On a Rebecca Marder. Paolo Mattei, bon sang, c'est quand même un beau casting, hein. Il n'y a rien à dire là dans les rôles principaux, et puis plein d'autres aussi, hein, qu'on peut admirer là, plein d'autres acteurs. Et puis il s'est fait aider quand même, collaboration, scénario, il y a Paolo Mattei qui joue dans le film, on a Florence Sievos, on a Maud Hamelin qui sont des scénaristes françaises qui ont participé à l'écriture de ce film. Et c'est un, alors La Grande Magie, à l'origine, c'est une pièce d'Eduardo de Filippo, qui est très connue en Italie, mais on le connaît beaucoup moins en France. Elle a découvert d'ailleurs, Noémie Lévovski a découvert, en 2008, elle a découvert une mise en scène de Dan Gemet à la Comédie Française. Elle dit qu'elle a été émerveillée, foudroyée par ce texte. J'assistais au spectacle 4 ou 5 fois. Je ne découvrais pas seulement le grand texte d'un auteur génial que je ne connaissais pas. Je rencontrais un texte frère, carrément, qui touche à mes doutes, à mes croyances, à mes angoisses, à mes espoirs, à mes besoins et à mes questions les plus profondes, à ma vision et à mon sentiment du monde. Quand même. La pièce a été écrite en 1948. Mais en fait, le récit n'est pas situé dans le temps. Alors du coup, la réalisatrice a choisi, voilà, un cadre temporel, bon, bah, les années 20, 1920, juste après la Première Guerre mondiale. Il me semble, dit-elle, que cette époque dit la fin du monde et résonne avec la mélancolie des personnages. Elle rend aussi nécessaire que dérisoire l'idée de divertissement et de villégiature heureuse en bord de mer. C'est une époque où la fiction se doit d'être aussi puissante que la réalité est dure, cruelle, aveuglante. Et en fait, le film, comme la pièce d'ailleurs, la pièce, le film sont hantés par la perte, la disparition et la mort. Mais c'est un très, très beau film. Ouais. Moi, j'ai toute confiance en Noémie Lévovski comme réalisatrice, comme actrice. J'ai toute confiance en elle. Elle fait du bon travail, hein. La grande magie. Ouais.
Et je te propose qu'on passe au prochain film, Emmett Till.
Tout à fait, Emmett Till. Eh ben oui, c'est un biopic, un drame, ça dure 2h10. Et alors, c'est très curieux parce que la réalisatrice s'appelle Shinoni, c'est pas Shuku. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est pas facile à prononcer, mais c'est normal. C'est une réalisatrice, scénariste, productrice déléguée nigériane. Moi, j'avoue que je ne connais pas beaucoup la langue du Niger. Alors, je prononce comme je peux, Shinoni Chukwu. Elle a 45 ans. Et ma foi, c'est une jeune femme extrêmement souriante. Je crois que je l'avais vue en interview, extrêmement souriante, très jolie. Donc elle a, c'est son troisième long métrage. Ah ouais, c'est son troisième long métrage de fiction. Là, c'est un biopic en même temps, hein. C'est pas uniquement de la fiction. On va voir de quoi il s'agit. C'est d'après une histoire vraie. Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till Mobley est aussi l'unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. La US, enfin, ah oui. Oui, là, c'est pas rien quand même. Quand Emmett est assassiné parce qu'il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant lors des obsèques pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l'opinion publique comprenne l'horreur qu'il a subie. Un geste fort pour refuser l'oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les droits exclusifs de publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s'émeut de ce lynchage particulièrement atroce. Avec courage, Mamie Till s'engage dans le mouvement des droits civiques et devient une militante active pour la NAACP, principale organisation de défense des Afro-Américains, réclamant davantage de justice sociale et d'accès à l'éducation pour la communauté noire. Alors, c'est un film très fort. Hein, on le devine, là, véritablement. Alors, dans le rôle de Mamie Till Mobley, on a Daniel Deadweiler. On a, dans les rôles principaux, Jeline Hall, qui joue le rôle d'Emmett Till, le pauvre garçon sacrifié. On a Whoopi Goldberg. On est content de retrouver Whoopi Goldberg. On la connaît quand même. On a Sean Patrick Thomas dans les rôles principaux, qui joue, C'est un casting, un beau casting. Ouais. On a John Douglas Thompson aussi. On a Diallo Thompson dans les rôles principaux. Et ben, je voulais en parler. Je voulais parler de ce film qui m'a touchée beaucoup. Voilà. Alors, malgré son titre, et Emmett Till, c'est-à-dire le titre du film, s'attache avant tout au parcours de sa mère, Mamie. Voilà, la réalisatrice décrit son film comme une histoire d'amour. Elle nous dit qu'en dépit de la souffrance et du chagrin, il était essentiel pour moi d'axer le récit sur l'affection profonde qui unit Mamie et son fils Emmett. Alors c'est Mamie Elizabeth Till Mobley. Elle était née en 1921. Elle est décédée le 6 janvier 2003. Elle était enseignante et militante. Elle est née dans le Mississippi. Elle avait emménagé dans la région de Chicago avec ses parents à l'époque de la grande migration afro-américaine. Elle était la mère d'Emmett Louis Till, assassiné dans le Mississippi en 1955 à l'âge de 14 ans, après avoir eu un comportement soi-disant inapproprié. Ouais. C'est ouf, moi ça me... Voilà. C'est-à-dire, il aurait sifflé une jeune femme dans la rue. C'est ce qu'on dit dans le synopsis. Donc, c'est quand même, voilà.
Eh ben, j'ai spécialement.
Oui, oui.
J'ai spécialement pour ça une bande-annonce.
Oui.
Donc, je te propose qu'on la passe.
Merci, oui, tout à fait.
Donc tout de suite, la bande-annonce de Emmett Till.
Oui.
Aviez-vous un fils qui, de son vivant, répondait au nom d'Emmett Till ? Oui, monsieur.
Il n'avait jamais eu d'ennui à Chicago ?
Pas plus qu'un autre jeune homme.
Avez-vous expliqué à votre fils de quelle façon il devrait se conduire au Mississippi ?
Est-ce que tu m'écoutes ? Ils ont des règles différentes là-bas. Fais-toi tout petit le temps que tu y seras. Emmett voulait seulement partir en vacances et s'amuser avec ses cousins. Je voulais préserver son innocence. J'ai tout fait pour que son enfance ne lui soit pas volée. Il ne s'est jamais dit que quelque chose pourrait lui arriver.
C'est bien ce garçon-là ?
Le corps d'Emmett Louis Steele vient d'être retrouvé mort.
Je dois vous préparer.
Tu pourrais m'apporter le costume d'Emmett, le noir. C'est comme ça qu'il voudrait être vu.
Beau n'est pas en état d'être vu par qui que
J'ai
ce soit.
Tout à fait en état, justement. Cette odeur, monsieur, c'est celle du corps de mon fils, empestant la haine raciale. Suivez-moi, je vous prie. Le monde entier doit voir ce qu'on a fait à mon fils.
Les photos, elles ont transformé la vie des gens. Toute l'attention est braquée sur vous maintenant. Nous avons une opportunité. En quoi risquer ta vie lui rendra service?
Je dois me montrer forte pour mon enfant.
Et mon enfant à moi, alors?
Aucun noir amené n'a jamais témoigné contre un homme blanc et survécu.
Il y a à peine un mois, j'avais un joli appartement à Chicago. J'avais un fils. Quand un malheur arrivait à des Noirs dans le Sud, je me disais, eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Mais aujourd'hui, je sais que ce qui arrive à n'importe lequel d'entre nous, où que ce soit dans le monde, doit impérativement être notre problème à tous.
C'était donc la bande-annonce de Emmett Till, et là, on va passer, on va retourner sur le thème des animaux. Avec le retour des hirondelles.
Le retour des hirondelles, mon Dieu, l'hirondelle. Alors, ça dure 2h13 quand même. C'est un drame, d'un réalisateur chinois, Li Weichen, réalisateur, chef monteur, scénariste. Il a 7 ans de carrière. Il a 3 tournages à son actif. Et comme il est très doué, il a déjà eu 9 nominations. Eh oui, sur 3 tournages, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, on va parler, oui, du retour des hirondelles. De quoi s'agit-il ? C'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux êtres méprisés par leur famille. Entre eux, la timidité fait place à l'affection. Autour d'eux, la vie rurale se désagrège. Voilà, l'histoire. C'est avec... Alors, on a 2 acteurs, c'est Wu Renlin et Ai King. Alors, ce sont, évidemment, on devine que ce sont des acteurs chinois de par leur nom. On va les découvrir, justement. Ça tombe bien de pouvoir découvrir. C'est ce que je dis souvent, hein, les acteurs des autres pays, de tous les pays où on peut trouver des réalisations, de belles réalisations. Voilà. C'est produit par la Chine et ce film a eu 9 nominations. 9 nominations à la Berlinale 2022. Des très, très jolies nominations. Voilà. Le retour des hirondelles. Ensuite, je voulais parler de la tour. Est-ce que j'ai le temps de parler de la tour?
Oui, tu as le temps, oui. Oui, tu as le temps.
Oui, un petit peu. La tour. Alors la tour, c'est un.
On pourra faire tous les films que tu m'as envoyés.
D'accord. La tour, c'est un drame fantastique. Il y a de l'épouvante et de l'horreur, mais ça dure 1h29. Mais c'est Guillaume Niclou. C'est Guillaume Niclou, le réalisateur. Ah, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de son film. Réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 56 ans. On connaît son nom, en tout cas. Hein. Il a 33 ans de carrière, 28 tournages à son actif. Il a engrangé à peu près 25 ou 27 nominations, quand même. Les confins du monde, Valley of Love, voilà, des films La religieuse, etc. Ah, Guillaume Niclot, on aime Guillaume Niclot, ce qu'il fait en tout cas. Et là, il s'agit de quoi? C'est interdit au moins de 12 ans, hein, avec un avertissement. Ça, c'est normal, ça colle avec le thème du film. Au cœur d'une cité, les habitants d'une tour se réveillent un matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d'un brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres, une étrange matière noire qui dévore tout et qui tente de la traverser. Pris au piège, les résidents tentent de s'organiser, mais pour assurer leur survie, ils succombent peu à peu à leurs instincts les plus primitifs jusqu'à sombrer dans l'horreur. Et oui, c'est là qu'intervient l'horreur. C'est quand les instincts de survie sont primitifs et deviennent terrifiants. C'est là, voilà. Alors là, on a Angèle Mack dans les rôles principaux. On a Atik. On a Ahmed Abdellaoui. On a Kylian Larmony dans les rôles principaux. Ce sont des acteurs qu'on connaît moins. Ils ont un talent fou, je trouve en tout cas. On a Marie Raymond, on la connaît elle. On a Nicolas Pignon, on a Igor Kowalski. Merveille de zombies dans les rôles principaux, voilà. Les acteurs qu'on va redécouvrir, qu'on connaît pas très bien, mais qui sont pleins de talent. Et on espère pour eux en tout cas, car ils sont jeunes, d'autres réalisations, d'autres films. Voilà. En tout cas,
c'est. Et je te propose qu'on passe au dernier film.
Oui.
De cette émission.
Absolument. Le dernier film s'appelle Traces. Traces comme des traces, au pluriel. Traces, ça dure 2h07. Là, je termine par des films qui durent plus de 2 heures quand même. Hein. Voilà, il y en a eu au moins 3 hein, qui durent plus de 2 heures. C'est un drame. Alors, le réalisateur, c'est Thiago Guedes. Je pense que je prononce à peu près bien. C'est un réalisateur, scénariste, créateur portugais. Il a 51 ans, il a 22 ans de carrière, il a 6 tournages à son actif, il a eu 3 nominations, mais oui, oui. Et on va voir de quoi il s'agit là. Qu'est-ce que c'est cette histoire de trace? Avertissement quand même, on note mes chéris, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage, hérité d'une tradition païenne, laisse des séquelles irréversibles au jeune Laureano, battu par 3 autres adolescents. 25 ans plus tard, Laureano vit toujours aux abords du village, en marge de la communauté et entouré de chiens errants. Les agresseurs, devenus maintenant des hommes, se retrouvent un soir pour célébrer la fête du village. À la nuit tombée, un événement fait remonter le passé à la surface et la tragédie s'installe. Alors là, on a dans les rôles principaux, on a Nuno Lopes. Oh lui, on le connaît, hein. Nuno Lopes, c'est sûr, si on est un habitué du cinéma, on l'a déjà vu, c'est un grand acteur portugais, très très célèbre chez lui d'ailleurs. Nuno Lopes, ah bah oui. On a Albano Geronimo, c'est pareil, on le connaît, on reconnaît son visage. Si on n'a pas retenu son nom, c'est un grand acteur portugais également. On a Edgar Morey, on a Adriano Carvalho dans les rôles principaux. Bon, ce sont des acteurs portugais, presque tous en fait. Le film est présenté en son spécial au Festival de Cannes 2022. Il a eu une nomination, ce film, justement au Festival de Cannes 2022, dans la série Séance spéciale. Il a été très bien accueilli. Il est produit par le Portugal et la France. En fait, le réalisateur avait envie de réfléchir sur la violence exercée par les plus forts sur les plus faibles, sur l'illusion du pouvoir qui envahit tous les aspects de la société. Il voulait réfléchir à la perte de l'innocence, où elle se produit et pourquoi. Voilà. Mais en fait, ce qu'il voulait surtout, c'était réfléchir à la peur et à la façon dont elle nous conditionne, comment elle nous transforme et comment elle déforme la réalité. Je trouvais que c'était quand même intéressant, un film à voir. Il faut s'accrocher, mais ça vaut la peine. Voilà.
Et ben, voilà ce que... C'est sur ce film un peu froid, on va dire, qu'on va terminer l'émission, alors.
Mais oui, tout à fait, tout à fait.
Ben ouais.
On va terminer l'émission sur ce film. Mais oui, voilà, on arrive à la fin, mes chéris, voilà. Et oui, Thibaut, on arrive à la fin, merci. Hein. Merci d'être là, de nous accompagner. Technicien animateur, s'il vous plaît. Voilà, on est content de l'avoir en tout cas. Merci pour les bandes annonces. Hein,
pas de soucis.
Celles que tu avais. Et puis, je te dis à la semaine prochaine en tout cas, de toute façon.
Oui, et d'ailleurs, à propos des bandes annonces, on peut toujours retrouver les bandes annonces sur le site re2m.org et sur le podcast de l'émission qui devrait arriver tout à l'heure d'ailleurs.
Tout à fait, merci en tout cas. Et mes chéris, mes chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, que vous soyez heureux le plus que vous pouvez, hein. Et puis de profiter surtout, parce que profiter, je sais pas ce que ça veut dire, mais profiter en tout cas de la journée qui passe, hein, du réveil au coucher. Carpe diem. Ah ouais. Et puis surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Vous écoutez REM en FM à Cadillac sur le 98.4. Radio Entre-deux-Mers à Blasimon sur le 98.4 FM. REM, la radio de toutes les générations.
À Sauveterre de Guyenne, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
L'Entre-deux-Mers à sa radio.
Que tu sois de la banlieue nord ou du Mississippi même, que tu sois blond comme les plaies ou noir comme de l'ébène, la musique qui nous unit n'a ni couleur ni frontières. C'est une façon de voir la vie qui fait de nous des frères. On est des frères du rock and roll. On est des frères du rock and roll. Que tu chantes dans le métro ou comme une star sur la scène, inconnu ou guitare et beau, l'esprit reste le même. Tu l'as ou bien tu ne l'as pas, pour ça y'a pas d'école. Si tu mets le feu dans ta voix, dans ta musique et tes paroles, on est les frères du rock and roll. On est les frères du rock and roll. Une façon de vivre,
pour oser tout remettre en cause. Une envie d'être libre, une musique intemporelle, sans bug et sans bémol. Sur les trois accords éternels, et même si certains rigolent, on est les frères du rock and roll.
Salut à toutes et à tous, c'est Seb, il est l'heure pour moi de vous parler des idées sorties de ce week-end. Et je vous propose tout d'abord, comme d'habitude, une soirée raclette pour vendredi soir du côté du château au Prado à Morizès. N'hésitez pas à réserver si vous souhaitez y participer, les réservations se font au 06 17 22 42 83, je répète, 06 17 22 42 83 si vous souhaitez faire une soirée raclette accompagnée des vignerons locaux. C'est une soirée très sympa qui s'annonce, c'est donc au château au Prado de Morizès. Une autre idée sortie, cette fois-ci du côté de Créon, et c'est jusqu'au samedi 11 février, je vous propose d'aller patiner à la patinoire synthétique de Créon. C'est au 1 place Camille Gourdon, et vous pouvez y aller bien sûr en famille si vous aimez patiner, si vos enfants, vos petits-enfants aiment patiner. Allez-y, vous allez tout simplement vous éclater. Une autre idée sortie, mais cette fois-ci toujours du côté de Créon, mais c'est un spectacle que je vous propose à 17h avec Le Voyage de Bavard et Muet. Ce sont deux acteurs qui incarnent des personnages des contes rythmés de musique illustrant les aventures de pop-up surgissant du décor accompagné d'instruments emblématiques des musiques des plaines du Danube et des monts des Balkans. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Sinon, pour les enfants, c'est 5€ et pour les adultes, c'est 8€. Et c'est à partir de 17h aux 3 rues Montesquieu à Créon. Toujours du côté de Créon, mais cette fois-ci pour le soir, je vous propose un concert. Le concert du groupe Season. C'est au 48 bis boulevard de Verdun à Créon. Et c'est un groupe de style varié, de pop, jazz and soul. C'est avant tout une voix, Maeva, accompagnée par un pianiste et un guitariste selon le répertoire. Et en plus, c'est gratuit. Et pour terminer, une dernière idée sortie juste à côté de la radio. Cette fois-ci, ça se passe à Sauveterre de Guyenne le dimanche 12 février avec pour les gourmands le salon du chocolat et des gourmandises. Gourmand, gourmande, le chocolat est mis à l'honneur à Sauveterre de Guyenne. Plusieurs animations autour du chocolat sont organisées tout au long de la journée.